Je pense à ma grand-mère, à sa croyance qui fait sa force, sa confiance, sa sérénité. Nous communiquons par regards, gestes, sourires. Pour les choses simples de la vie quotidienne, chacune parle sa langue et entre nous, ces échanges minima sont intenses, tant l'opinion de l'une importe pour l'autre. Pour les conversations longues, difficiles ou graves, nous prenons des interprètes, n'importe lesquels, jamais les mêmes, médiateurs transparents. Nous leur parlons sans les voir, sans nous quitter du regard un seul instant. Quand il n'y a pas d'interprète, on dialogue malgré tout, comme si dans la tension affective, on trouvait une langue commune, à l'intérieur même du chassé-croisé de deux langues, une sorte de métalangue qui transcende mon français et son wolof. Ma grand-mère est extrêmement ferme dans son propos. En face d'elle, ma volubilité devient hésitante. Je me soumets spontanément à l'autorité qu'elle impose et qui m'apaise. Elle se moque gentiment de mon faux savoir, mais par délicatesse, elle n'en appelle jamais à sa longue expérience. Quand elle croise mon regard, ma grand-mère a les yeux qui rient. Mam Nafidiop ne me consulte pas. Elle m'informe de ses décisions quand elle les a prises. Moi, je lui fais part de mes désirs. Elle acquiesce toujours, car ils lui paraissent raisonnables. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Valentin Dedon et je suis ravi de vous retrouver sur Radio G pour un nouvel épisode d'Albertine, l'émission qui se souvient de nos grands-mères. De lundi par mois à 13h, en semaine impair, mais aussi quand vous le désirez sur radio-g.fr, on se souvient de nos grands-mères avec une ou un invité. C'est un langage à elle seule, une grand-mère, sans les mots parfois, de gestes, de regards, de sourires, qui acquiesce ou réprouve, écoute toujours. On se comprend. Voilà ce que nous explique Catherine Ndiaye dans Jean de Sable, paru en 1984 chez POL, le livre dont je viens de lire un extrait en ouverture de l'émission. On retournera peut-être en Afrique, où il a vécu avec notre invité, que je suis très heureux d'accueillir, Michel Durigneux, ancien instituteur, voyageur, photographe, poète, entre autres, que j'ai découvert grâce à une photo de sa grand-mère, lisant un journal déposé sur une nappe à carreaux, attentive, belle, à manches courtes sur sa terrasse. Bonjour Michel et merci beaucoup d'accepter l'invitation d'Albertine.
Merci, bonjour Valentin, merci beaucoup.
Alors Michel, première question rituelle de cette émission, c'était quoi le prénom de tes grands-mères ?
Alors ma grand-mère maternelle, celle dont, qui est sur la photo dont tu parles, s'appelait Françoise. Et ma seconde grand-mère, ma grand-mère paternelle, je ne l'ai pas connue du tout et je ne sais même pas comment elle s'appelait.
Tu connais pas son prénom ?
Je connais pas son prénom. Je sais rien de son existence, y compris son prénom, dont j'ignore tout.
Et comment ça se fait qu'il n'y a aucune trace, même pas de son nom, de son prénom ?
Parce qu'en fait, quand ma mère est décédée à ma naissance et ma grand-mère maternelle nous a recueillis, mon frère, ma sœur et moi. Mon frère et ma sœur étaient beaucoup plus âgés que moi, ils avaient 11 ans et 14 ans. Et en fait, il y a eu c'est assez obscur quand même, une histoire familiale un peu compliquée, mon père a été un peu mis à l'écart et du coup, toute la partie paternelle a été occultée. Et je crois qu'aujourd'hui, je ne sais pas. Et c'est vrai que je n'ai pas beaucoup cherché quand j'étais enfant. Et c'est seulement maintenant que je me pose un peu la question, évidemment. Mais non, je ne connais même pas son prénom.
Tu as une petite curiosité pour cet espace-là paternel qui a un peu disparu.
Oui, c'est sûr. Et cette curiosité est venue après le décès de ma grand-mère qui empêchait peut-être un peu, elle, par sa présence, empêchait un peu d'aller sur cette branche-là. Quoi.
Et alors, tu entreprends des choses pour aller dans cette branche ? Tu as fait des recherches ou la curiosité est juste pour l'instant intérieure ?
Ouais, c'est intérieur. Ouais. Je me suis longtemps posé la question de l'intérêt de faire ça. Et puis aujourd'hui, peut-être plus en vieillissant. Et alors, le problème, c'est que plus le temps passe, plus c'est compliqué de revenir en arrière, de croiser des gens qui ont connu ces personnes-là. On se heurte tous à cette question-là. Quoi.
Par conséquent, celle qui est encore très présente, elle, dans les mémoires, dans ta mémoire, donc c'est Françoise. Est-ce que tu peux nous parler d'elle, nous la dessiner, nous dire à quoi elle ressemblait ?
Alors, c'était une personne... d'abord, c'était quelqu'un de très modeste sur le plan social. C'est quelqu'un qui était allé très peu à l'école. Elle disait toujours qu'elle était allée deux hivers à l'école. Donc elle savait lire, pas très bien, mais elle lisait. Elle écrivait très très mal. J'ai retrouvé il n'y a pas très longtemps, j'ai habité quelques années à Rennes et puis j'ai habité aussi en Afrique. Donc de temps en temps, elle écrivait un peu. Et c'est totalement incompréhensible.
Elle t'écrivait des lettres, tu
veux dire ? Oui, quelquefois. Oui. Mais c'est comme si c'était une langue qui avait disparu. Quoi.
Enfin, une métalangue, comme nous dit Catherine Ndiaye dans l'extrait initial.
Oui, c'est ça. C'est complètement ça. C'est complètement ça, une métalangue. Et quand je suis retombé il n'y a pas très longtemps sur une lettre qu'elle m'avait écrite quand j'étais étudiant à Rennes, et je comprends rien. Rien. Alors j'ai un peu oublié aussi son vocabulaire, son patois, parce qu'elle était originaire du sud de la Sarthe. Et là, il y a un fort accent et un patois qui est à la fois ce qu'on retrouve un peu en Anjou, mais avec un vocabulaire un peu particulier. Et donc il y avait du patois, mais pas que. Et il y avait aussi qu'elle ne savait pas écrire. Elle écrivait littéralement, quoi. Donc c'est très difficile à lire aujourd'hui. Enfin, avec le temps en plus qui est passé, c'est...
Mais malgré tout, elle faisait cet effort d'écriture pour communiquer avec toi.
Oui, oui, tout à fait. Oui, elle faisait.
Alors, c'est touchant, ça.
Oui, c'est touchant, oui. Oui, c'est touchant, oui. Oui. Et, alors le plus compliqué, c'était l'adresse, parce qu'il fallait quand même que le facteur soit assez doué pour lire l'adresse.
Donc il y avait cette écriture particulière, et dans son oralité aussi, donc elle parlait le patois.
Elle avait une langue. J'ai eu d'ailleurs un rapport au patois qui était particulier, parce que c'était la langue de ma grand-mère. Et j'ai fait un refus un peu plus tard de ça, du patois, des espèces de langues locales là. Et j'ai sans doute fait beaucoup d'efforts pour ne pas assimiler ces questions-là. Et c'est plus tard assez récent même d'ailleurs, que je lis des poètes patoisans, que je m'intéresse un peu à ce travail d'écriture-là sur une langue très rurale, très un peu archaïque, un peu. Mais maintenant, je m'y intéresse un peu. Mais longtemps, j'ai refusé de le faire.
Par cet intérêt, tu as l'impression de te rapprocher d'elle, de Françoise ?
Un peu, oui. Oui, d'une certaine manière. Oui. Je l'entends un peu quand je lis des poètes patoisans comme Émile Joulin ou des gens comme ça qui ont quand même écrit des choses intéressantes. Mais oui, ça, sans doute, ça me rapproche d'elle. Quoi. J'ai un souvenir d'ailleurs, une fois à Tunis, j'avais dans une réunion, il y avait un prof qui était là, et qui était prof de lettres, que je ne connaissais pas. Et à un moment donné, il a dit une phrase pour rigoler comme ça, en patois, sartois. Et à la fin de la réunion, je suis allé le voir en disant « Mais d'où tu sors, toi ?» Il m'a dit « Je suis de Malicorne. » Et là, c'était drôle. Et lui, il avait fait une thèse sur le lien entre le vieux français, le patois sartois et le québécois. Et il avait fait un travail là vraiment de recherche. Et c'était intéressant. Et lui, il parlait très, très bien. Alors, je comprenais tout ce qu'il disait. Bon, je ne pouvais pas lui répondre, mais je comprenais tout ce qu'il me disait.
Même là-bas, tu as croisé ton ancrage local et ta grand-mère.
Oui, c'est ça.
Et donc, c'était où exactement, Françoise, qu'elle habitait dans la Sarthe ?
Alors, elle était née à la Chapelle d'Aligné. Donc, c'est un petit village entre La Flèche et Sablé. Et en fait, elle a passé une partie de sa vie dans ce coin-là, quoi, dans des petits villages dont j'ai le nom en tête, mais quand je lis ces noms-là, c'est elle qui... Ça m'évoque sa présence. Quoi. Et puis ensuite, elle s'est installée au Réry, près de Durtal, puis ensuite dans le Beaujois. Quoi.
Et toi, comment tu l'appelais ?
Alors, je l'appelais grand-mère, ou je l'appelais mémère, ça dépendait des circonstances. Mais
oui, il y a beaucoup le mémère.
Le mémère, ouais, c'était le petit diminutif un peu, c'était mémère, oui, oui. Mais sinon je disais grand-mère, et puis pour beaucoup d'entre nous, c'est-à-dire mes cousins, mes neveux et nièces, elle, c'était la grand-mère, c'était une espèce de figure centrale, c'était une figure centrale en fait. Elle était très charismatique, elle ralliait beaucoup de gens autour d'elle, et il y avait toujours du monde dans la maison. Elle habitait une toute petite maison, mais il y avait toujours beaucoup de monde. Elle s'est occupée de beaucoup d'enfants qui n'étaient pas les siens. Et soit pour des vacances, elle faisait un peu la nounou, elle faisait un peu. Et en fait, sa notion de famille était très élargie.
Il y avait un accueil, une chaleur humaine. Sa maison était souvent remplie.
Oui, souvent, très souvent. Et elle était très chaleureuse. Et c'était une personne qui avait un caractère très, très fort. Donc, elle pouvait s'emporter, elle pouvait, voilà. Mais en même temps, tout le monde l'adorait, quoi. C'était quelque chose que j'observais, moi, avec un peu de distance. J'ai toujours eu cette distance par rapport aux gens autour de moi et de ma famille en particulier. Mais là, elle, oui, je l'observais beaucoup, en fait.
Quand tu étais petit, quand tu étais jeune, oui. cette observation, elle a commencé très tôt ?
Très tôt, oui. Très, très tôt. Peut-être parce que j'avais un statut un peu à part, parce que j'étais pas son enfant, et en même temps c'était elle qui faisait office de mère, enfin, pour moi. Donc
oui, on peut préciser, donc, par rapport à ce que tu nous as dit au début de l'émission, que donc tu as grandi chez elle, avec elle, c'est elle qui t'a élevé.
Oui. Donc c'est pas un peu particulier. Je n'ai pas connu, moi, de grand-mère. On quitte ses parents, on quitte son noyau familial principal, et puis on a cette espèce de pas de côté pour aller vers les grands-parents, ce que je vis aujourd'hui, moi, comme grand-père. Mais non, c'était un peu différent, puisque c'était elle qui s'occupait de moi, c'était mon tuteur, en fait. Donc je dépendais d'elle beaucoup, comme on peut dépendre de ses parents, quoi.
Et par conséquent, c'était à la fois une tendresse, une autorité, plein de choses, du rôle paternel aussi. Ou comment elle a construit ce rôle un peu particulier, j'imagine, de manière très, très naturelle et spontanée.
Ouais, c'était un peu, je pense, une personne, je pense souvent au film italien, où la place de, on voit des femmes qui ont des statues comme ça dans les films de Scola ou d'autres réalisateurs italiens des années 60, là, où on voit vraiment la femme qui décide un peu de tout, qui mène un peu tout le monde, quoi.
La matriarche.
Oui, un peu. Elle vivait. Alors j'avais un grand-père qui n'était pas mon vrai grand-père. Son mari était décédé quelques années avant ma naissance. Et elle vivait avec un homme qui, pour moi, a toujours été mon grand-père, que j'appelais mon grand-père, mais qui n'était pas mon vrai grand-père, et ils n'étaient pas mariés. Et donc, il était là, donc il y avait une présence masculine, mais c'était elle qui décidait de tout, quoi. La maison était à elle, les affaires, c'est elle qui les menait, quoi.
Ouais, on a l'impression d'un personnage comme ça, assez charismatique. Et je repense à l'article qui était employé, comme tu disais, par tes neveux et nièces, la grand-mère, quoi. Il y a ce côté-là, une stature.
Oui, oui, c'est ça. C'était quelqu'un qui avait une stature. Et ça dépassait même le cadre familial. Dans le cadre amical aussi, elle avait beaucoup de... Et comme elle était très entière, très passionnée aussi, elle pouvait être dérangeante, à certains points de vue, et parfois excessive. Et elle avait ce côté... bizarrement méditerranéen, alors qu'elle n'était absolument pas méditerranéen.
Ouais, entière, quoi. On dirait qu'elle pouvait être adorée et redoutée à la fois.
Oui. Et moi qui avais ce recul-là, je me disais, mais comment il la supporte, quoi. Enfin, à certains moments, parce qu'elle pouvait être. Elle jouait beaucoup aux cartes, par exemple, et quand elle jouait aux cartes, elle était épouvantable. Elle détestait perdre. Et donc, elle pouvait faire tenir des propos complètement excessifs, quoi.
À quoi elle jouait ? Elle jouait
à la belote. Elle jouait à la belote, elle jouait à la manille, qui est une espèce de variante de la belote.
Et mauvaise puis, perdante, mauvaise foi.
Mauvaise perdante, oui. Et comme souvent, ils avaient besoin d'un quatrième joueur, et c'était souvent moi qui faisais office. Et donc j'ai joué beaucoup, beaucoup à la belote quand j'étais tout petit. Et j'ai détesté ce jeu parce que j'ai trop joué. Et surtout avec elle, qui était quand même...
Oui, t'as, à côté d'elle, où tu tenais avec elle, il fallait pas faire d'erreur, t'avais un petit
peu
la crainte.
Non, fallait pas. Alors moi, elle était très très gentille avec moi. Elle était pas du tout... Moi, j'ai jamais eu de remarques désagréables. Avec les autres, oui, avec mon grand-père en particulier. Et alors, ils avaient trouvé une méthode pour jouer à trois, à la belote. Qui quand même, on enlève, je crois, les 7 et les 8, et on peut jouer à 3. Et ça, c'était catastrophique, parce que j'étais là, du coup, il n'y avait pas besoin d'un quatrième joueur. On était tous les trois, et donc j'étais obligé de jouer, quoi. Donc j'ai plus jamais joué à la belote.
La belote, c'est fini, c'est
non,
fini pour toi.
Plus jamais.
Et cette personnalité-là dont tu parles, on dirait que toi, tu étais à l'abri de ça, de ces excès.
Totalement.
Elle te maintenait à l'écart un petit peu de ça, de
ces excès. Totalement. Elle était même dans une forme d'adoration, c'est-à-dire d'admiration sans borne.
Tu révélais son côté tendre.
Ah oui, oui, tout à fait. Mais elle était, d'abord, elle avait un contact avec les enfants qui était extraordinaire. Elle aimait les enfants et elle s'en occupait très bien. Et elle était très sensible à toutes les difficultés que les enfants traversaient. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, elle avait une histoire particulière parce qu'elle avait en fait été... elle avait épousé mon grand-père, mon vrai grand-père, donc, et qui était veuf et qui avait 4 enfants. Et il a vu des enfants assez jeunes et il avait des enfants tout petits. Il s'est retrouvé veuf et elle avait 17 ans et elle l'a épousé. Et ensuite, elle a eu 2 enfants, dont ma mère, avec cet homme. Et déjà très jeune, elle avait cette capacité d'accueil des petits, quoi. Et moi, elle m'a aimé comme elle m'a sauvé, quoi. Elle m'a sauvé parce que là, je me suis rendu compte à ce moment-là que très vite que l'amour pouvait sauver les gens de situations. Moi, j'avais quand même une histoire qui était pathétique et qui était. J'aurais certainement été à l'assistance publique, etc. Donc, elle a fait quelque chose d'extraordinaire, quoi. Et elle m'a donné des forces pour la vie, quoi. Vraiment. Et je ne suis pas tout seul à avoir... Je le partage aujourd'hui avec d'autres personnes qui l'ont connue et avec lesquelles elle a eu cette relation-là, ce don aux autres qui est fabuleux, quoi.
Ah, elle t'a sauvé. Tu dis qu'elle t'a sauvé. Toi, enfant, tu avais déjà conscience de ça ou c'est quelque chose, c'est un sentiment qui s'est construit?
Ah oui, c'est un sentiment qui s'est construit, évidemment, mais oui, j'en ai eu très vite conscience. Après, c'était aussi... j'étais un peu enfermé dans cette affaire-là parce qu'elle me faisait tellement confiance que je pensais que je ne méritais pas cette confiance-là. C'était pour mes études, par exemple, elle trouvait que j'étais un génie, quasiment, quoi. Enfin, elle était... pas illettré, mais presque. Mon grand-père était totalement illettré. Enfin, la personne avec qui elle vivait. Moi, j'avais une espèce de pression avec ça, quand même, parce que... Et quand je suis devenu instituteur, c'était sans doute dans son esprit, à elle, ce que je pouvais faire de mieux, quoi.
Ouais, c'était un summum.
Ouais, j'étais le président de la République, quoi, à peu près.
Ouais, tu l'as rendu fière, hein.
Ouais, je pense qu'elle était fière, ouais. Elle était fière. Elle était fière. Alors, c'est sûr qu'elle ne pouvait pas m'aider sur le plan des études, même sur les conseils qu'on pouvait donner à un jeune. Là, j'étais un peu démuni, parce que c'était quand même un milieu très, très, très démuni culturellement, et socialement aussi. Donc, elle ne pouvait pas m'aider là-dessus. Mais par contre, elle m'a donné cette confiance qui fait que finalement, après, ça roule, quoi. On se sent pas trop limité dans ce qu'on va faire.
Oui, la confiance, l'amour, tu sens que tu as été entouré de ça, tu as reçu ça, malgré l'histoire originelle, dure.
Ah oui, 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 c'est sûr. Oui. Oui, je pense que c'était aussi... le grand malheur de sa vie, ça a été de perdre sa fille et ma mère. Je crois que j'étais une histoire de continuité. Mais elle l'a fait avec d'autres enfants, donc c'était pas seulement cette histoire-là.
Une fois que tu es parti plus loin pour tes études ou après tu as vécu en Afrique, la relation à distance, comment ça se faisait? L'attachement était toujours très fort?
Oui, l'attachement était fort. Après, c'était elle a eu cette capacité à me laisser vivre ma vie, quoi. Et ça, c'est quelque chose de aussi qui m'a beaucoup... J'ai beaucoup appris de ça pour ma propre existence.
Elle t'a pas... Cet amour-là, il t'a pas retenu,
non.
Il t'a pas
non.
gardé auprès
non.
d'elle à tout prix. Elle t'a laissé faire.
Elle a jamais fait ça. Et pourtant, elle était seule quand je suis parti, par exemple, en Tunisie. Je me souviens, on était tous les deux en voiture et il fallait que je lui annonce que j'allais partir à Tunis. Et là, c'était difficile, quoi. Et elle a réagi de façon extraordinaire. Enfin, elle m'a dit, c'est ta vie, il faut partir, il faut y aller. Si c'est ça que tu veux, il faut y aller, quoi. Et alors que je savais qu'elle était quand même très seule. Et ben non, elle a jamais essayé de me retenir. Non.
Oui, elle a su mettre ses émotions, peut-être son inquiétude ou autre.
Je pense
de
que
côté
c'était quelqu'un de très fort. C'était quelqu'un de très fort. Elle n'était pas. Elle se plaignait jamais. Elle a été très malade quand j'avais à peu près 12 ans, 12-13 ans. Elle était très malade, elle a eu un gros problème au pancréas et donc elle a eu une opération assez risquée et le chirurgien lui avait dit, voilà, il avait mis en garde un peu en disant, voilà, est-ce que il y a quand même des risques et elle avait dit, il n'y a pas le choix, il lui dit pas trop, il dit, faut y aller. Et souvent j'y repensais parce que évidemment mon grand-père qui était là, qui était très très angoissé, Moi, je faisais un peu tout à la maison et elle, elle devait l'être aussi parce que si elle décédait, je ne sais pas ce que je devenais, quoi. C'est d'ailleurs l'année où j'ai redoublé une classe au collège parce que j'étais perdu, quoi. Enfin,
et... Oui, elle est devenue fragile pour toi. Enfin, il y a eu une fragilité.
Oui, parce que je me disais...
Possiblement de la perdre.
Bah oui, elle était âgée. Je me posais la question, effectivement, de ce qui allait se passer, quoi. C'est... Mais elle était très forte. Elle était capable de dépasser ce genre de situation et d'être forte, quoi.
Et le fait qu'elle accueillait des enfants, qu'elle s'occupait d'enfants, tu sais à quoi c'est lié, ça, dans son histoire, ou c'est à partir de toi, peut-être, qu'elle a voulu recueillir d'autres enfants?
Je crois qu'elle avait déjà fait. Elle avait déjà fait. J'ai en particulier une cousine qui a été, enfin, elle s'en est occupée toute petite. Des amis aussi qui lui ont confié les enfants pour les vacances, pour des raisons de travail. Elle était assez disponible. Et donc, elle avait cette disposition. Je ne sais pas d'où elle tenait ça, quoi. C'est...
Elle avait un métier ? Elle travaillait ou...
Alors, elle n'avait pas de métier. Enfin, elle était ouvrière. Elle se considérait comme ouvrière. Elle venait plutôt du milieu rural, de toute façon. Paysan, pas vraiment. Je crois, quand elle avait 8 ou 9 ans, à l'époque, on mettait les enfants en place. C'est-à-dire qu'ils étaient placés dans les fermes. Donc elle a travaillé dans des fermes, mais comme, je ne vais pas dire comme esclave, mais pas très loin. Et ensuite, elle a vécu beaucoup de petits boulots et elle a été ouvrière d'usine dans une usine de papier, une papeterie. Et là, elle se considérait vraiment comme une ouvrière. Elle avait d'ailleurs un certain dédain pour le monde agricole. Elle ne les aimait pas, quoi. Elle trouvait que... C'était pour elle, c'était une autre classe, quoi. C'était une classe riche, et qu'elle, elle était ouvrière.
Ah, il y avait cette séparation-là qui était faite.
Oui, oui. Elle a très longtemps voté pour Arlette Laguiller, par exemple. Alors, sans y connaître rien en politique, évidemment. Mais je pense que c'était une figure qui, pour elle, ça avait du sens, quoi. C'était le monde ouvrier, oui.
Et aujourd'hui, quand tu repenses à elle, est-ce qu'il y a des souvenirs récurrents, des moments comme ça, un petit peu, qui te reviennent tout de suite en mémoire ?
Oh oui, il y a beaucoup de moments, des moments de partage. Elle avait cette petite maison qu'elle avait achetée, qui est aujourd'hui, qui m'appartient. Et ils avaient un peu de terre, ils avaient 3 hectares de terre à peu près. Et en fait, leur idée, elle avait quitté l'usine et ils voulaient vivre là un peu en autarcie. Mon grand-père, son compagnon, était ouvrier maçon, manœuvre, comme on disait à l'époque. Et donc, ils avaient un petit salaire. Et puis, avec la terre, ils s'en sortaient. Donc, sauf que, bon, elle a eu le malheur de perdre sa fille et de se retrouver avec moi, etc. Donc, on vivait en autarcie, en fait. On vivait en autarcie.
On s'arrangeait, quoi. On trouvait des solutions.
Oui, il y avait des animaux. On avait des chèvres, on avait des moutons, on avait un âne.
Le potager.
Oui, c'est ça. Ouais. Donc, c'était tous ces moments de partage dans les champs. Qui étaient, d'ailleurs, je dis souvent, les premiers voyages que j'ai faits, je les ai faits là, quoi. Enfin, dans les champs, dans les chemins autour de la maison, quoi. Parce qu'on évidemment, on ne voyageait pas. On n'avait pas de voiture. Mon grand-père avait une moto. Et donc, et ma grand-mère aimait beaucoup aller derrière. Ils voyageaient tous les deux, ils faisaient des petites choses en moto.
Et ta grand-mère, elle n'a jamais quitté son département ou...
Non, non, non. On est allé, quand j'avais 14 ans, à la montagne, en Ardèche, dans la Drôme. On est descendu même jusqu'à Castellane, parce que j'avais un cousin qui habitait par là, qui avait réapparu, qui aimait beaucoup aussi ma grand-mère. Elle avait fait beaucoup de choses pour lui, et il l'adorait, il était venu, et il avait voulu absolument l'emmener à la montagne, mais elle avait déjà... plus de 70 ans, mais elle était partante. Hein. Ouais, elle était toujours partante. Elle aimait les nouveautés, elle aimait. Ouais, elle était pas rétrograde du tout.
Et un vrai caractère, et on sent à travers ce que tu dis que t'es pas tout seul. Vous êtes un collectif à se souvenir d'elle et à garder des traces d'elle fortes.
Oui, tout à fait. Ouais. Ah oui, complètement. Je ne suis pas tout seul. Et ça, c'est quelque chose qui est très chouette aussi parce que j'ai, finalement, ça a aussi influencé beaucoup de choses dans ma vie plus tard parce que j'ai beaucoup élargi des cercles des gens qui comptent. Et c'est à elle que je dois ça. Je n'ai pas un sens restrictif de la famille mononucléaire enfin pas mononucléaire, mais un peu avec ce noyau-là, parents-enfants, j'ai pas trop... Pour moi, ça va beaucoup plus... C'est beaucoup plus large que oui, ça, et c'est grâce à elle.
Et c'est l'histoire de ta grand-mère qui crée ça. Et d'ailleurs, c'était... Oui. Pour l'époque, ça devait être assez singulier et ça marque aussi sa force de caractère ces choix-là.
Oui, c'était singulier, oui. Alors, elle ne théorisait pas du tout cette question-là, hein, évidemment, mais elle le faisait, quoi. Et c'était une maison ouverte. Et du coup, elle a eu beaucoup de retours sur la fin de sa vie, quand même. Et aujourd'hui, on se retrouve encore depuis deux ans. Mon frère est décédé et ça a déclenché des choses autour de ça parce que ses enfants ont voulu un peu revoir la maison. J'avais un peu moins perdu contact avec pas mal de personnes dans ma famille, mais pas par volonté, parce que le temps est passé, voilà. Et puis je suis parti longtemps aussi. Et donc, maintenant, on se retrouve là une fois par an, tous les cousins, des neveux, des nièces, et elle est là, quoi. La maison a changé, mais pas tant que ça, et donc, elle est là.
Elle continue à relier les êtres humains.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Est-ce que tu l'as souvent pris en photo ?
Pas beaucoup, parce qu'en fait, il se trouve que je suis devenu photographe sur le tard. Enfin, moi, je fais les choses, souvent, elles arrivent tard. Et donc, ça, c'est arrivé tard aussi. Et donc, à l'époque où j'ai fait cette photo, je n'étais pas encore photographe, la photo dont tu as parlé. Et donc, j'ai pas beaucoup de photos d'elle. Il y en a quelques-unes, des gens qui passaient. Donc, je retrouve de temps en temps des petits clichés, des choses, mais il n'y en a pas beaucoup parce qu'il n'y avait pas d'appareil photo dans la maison. Et puis moi, je suis devenu photographe beaucoup plus tard. Donc, j'ai fait ces photos. J'en ai pas beaucoup, en fait. Pas tant que ça. C'est un peu un regret. J'aurais voulu la photographier plus.
Oui, il y a une rareté de la photo et du coup, celles qui sont là sont précieuses.
Oui, tout à fait.
Michel, il est déjà l'heure de mettre un terme à cette... conversation grand-maternelle. Merci beaucoup d'être venu nous parler de Françoise.
Merci à toi, Valentin, c'est très touchant.
Merci à toutes et à tous, les auditrices, les auditeurs. On va se retrouver très bientôt pour un nouvel épisode d'Albertine. Comme d'habitude, on se quitte avec un texte écrit et lu par notre invité Michel Durigneux. Alors ce texte, justement, fait écho à la photographie dont on a parlé en début d'émission et puis aussi dans le cours de notre conversation. À toi, Michel.
C'était toujours ainsi qu'elle se penchait au-dessus de la table, les bras largement écartés, pour nous lire son journal, La Nouvelle République. C'était un rituel quotidien. Le soir, elle nous lisait les merveilleuses histoires des faits divers, des assassinats et des accidents de la route. Nous, c'était mon grand-père et moi, tous deux bons publics, mais totalement illettrés. Moi, parce qu'encore trop petit, et lui, parce qu'il n'était jamais allé à l'école. Sur la photo, elle va avoir 84 ans dans quelques mois. Je ne suis pas encore photographe. L'appareil est un vieux Praktika, petite merveille fabriquée en RDA. J'habite alors en Afrique et je ne viens plus très souvent revoir celle à qui je dois presque tout. Ses cheveux sont ramassés en arrière dans un petit chignon, comme ça peut. Quelques mèches blanches se sont échappées et tombent sur son visage. Avait-elle été blonde ou brune ? Je l'ai toujours ignorée. Comment imaginer une jeune femme sous les traits de celle qui sera à tout jamais une grand-mère ? J'écoute sa voix et sa lecture hésitante du journal. Plus tard, ayant moi-même appris à lire, je relevais ses fautes de lecture, sans rien dire. Personne ne se permettait de l'interrompre. Le grand-père était comme un enfant, et tous les trois, on ressemblait à une famille, presque comme les autres. Aujourd'hui, ma grand-mère aurait 123 ans, et j'ai moi-même l'âge qu'elle avait quand j'avais 12 ans. Je suis revenu habiter notre maison, où tout a changé, rien.